Avertissement, le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage cru. Veuillez procéder avec caution.
Salut et bienvenue à un autre épisode de Mauvais Augure. C'est moi, votre hôte, Frédéric Hiel. Les sujets que je traite dans mon podcast, c'est pas pour les doux. Donc, vous avez encore le temps d'arrêter la diffusion et de vous trouver de quoi d'un peu plus léger. Avant de débuter, deux, trois petites choses. C'est ça, pour Patreon, finalement, c'est de la grosse merde. Ils veulent pas approuver mon matériel. Donc, pour le matériel exclusif, les plans payants, ça va être sur Spotify. Et sûrement sur Apple iTunes Podcast. Mais je dois faire une migration de mon matériel d'une plateforme à une autre. Puis là, ça bug avec Himalaya. Donc, si les problèmes persistent au courant de la semaine, je vais diffuser la première capsule que je voulais qui soit exclusif pour les plans de paiement. Je vais la diffuser gratuite pour tout le monde, histoire de vous faire patienter un peu. Je veux remercier aussi tous les auditeurs qui encouragent le podcast. C'est vraiment apprécié. J'avais jamais regardé les statistiques du podcast sur Spotify. J'étais agréablement surpris, je dois dire. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur les plateformes que vous écoutez. Si vous voulez rester à jour, ça prend que 2 secondes. En plus, vous allez être tout le temps au courant quand je sors du nouveau matériel. Et de plus, ça encourage le podcast. Ça aide à avoir plus de visibilité. Et que d'autres auditeurs risquent de s'abonner. Et surtout, tant qu'à y être, n'hésitez pas à liker les épisodes et les commenter. Bon, je vais finir avec le reste des annonces en terminant l'épisode assez perdu de temps. Aujourd'hui, je vous présente un dossier assez particulier. Les événements se sont produits sur plusieurs années. Il y a différents perpétreurs aussi, mais ils sont tous reliés au même cercle de personnes, en majorité de la même famille, les Van Crevel. Un autre cas où les médias ont fait ce qu'ils savaient faire de mieux, c'est-à-dire écrire des articles pour avoir le plus de ventes possible sans trop se soucier des faits. Parce que ce dossier-là contient de tout, mes chers amis. Une formule gagnante pour les médias. Ouais, de tout. Du satanisme, de la violence, du sexe, des mensonges. Un tas de mensonges, je pourrais dire. Des vols, de la drogue, de l'alcool et sans oublier des meurtres sauvages. Les médias y ont encore beurré épais. Ils ont surnommé Belinda Van Crevel la femme la plus diabolique d'Australie. Comme vous allez voir, les événements qui suivent, c'est pas une bonne personne, mais je pense pas que c'est la femme la plus diabolique d'Australie. Son frère Mark Valera, souvent, il est appelé un tueur en série, mais il a tué juste 2 personnes. Et d'après la définition du FBI, la personne doit avoir tué au moins 3 personnes et plus pour être considérée comme telle. Comme j'ai dit pour ce dossier, on se dirige en Australie, plus précisément à Wollongong, qui se situe dans le New South Wales. Wollongong, plus connu intimement sous le nom du Dogong. C'est une ville côtière avec une population aux alentours de 295 000 habitants d'après le dernier recensement en 2016. Une ville assez tranquille, avec très peu de crimes violents. Mais tout ça changea en 1998, alors que 3 meurtres violents se sont produits en seulement quelques mois. Bon, revenons aux Crevel. Mark et Belinda Van Crevel ont été élevés dans un milieu familial, semble-t-il, aux emprises avec de la violence au quotidien, des traitements atroces, de l'abus psychologique, de la violence physique, ainsi que des agressions sexuelles. Les sévices que ces 2 enfants ont subis sont inimaginables. Mark et Belinda ont été dépouillés de leur enfance, volés de leur innocence, et tout ça par quelqu'un qui devait les protéger et subvenir à leurs besoins, leur peur. Ça paraît peut-être pas tant que ça, mais j'avais un petit ton sarcastique en lisant le paragraphe. Vous allez tout comprendre un peu plus tard dans l'épisode. On n'a pas trop de détails sur l'enfance de Belinda et de Mark Van Crevel, à part que se sont fait maltraiter, semble-t-il. Pour Mark, lui, on a un peu plus de détails. Il est né qui a des difficultés d'apprentissage. Il y avait aussi des problèmes d'élocution. Donc, ça n'a pas trop aidé à se faire des amis et se fondre dans la masse quand il était plus jeune et qu'il fréquentait l'école. Mark était de corpulence beaucoup plus imposante que ses collègues de classe. Il a vite compensé son manque d'intelligence par sa force brute. D'anciens professeurs et étudiants se rappellent de lui comme de quelqu'un qui persécutait les plus faibles. Un charmant jeune homme, comme qu'on pourrait dire. Et c'est à l'adolescence qu'il se lia d'amitié avec Kate Schreiber. Kate Schreiber, c'est un peu le même genre que Mark. Pas beaucoup d'amis, un peu bizarre. N'inspire pas confiance trop. Il a lâché l'école vraiment jeune. Les deux adolescents partageaient le même centre d'intérêt et sont devenus de bons amis très rapidement. Vous vous demandez sûrement quel genre de hobby et passe-temps les deux partageaient. Et croyez-moi, c'est pas du tricot et des mots croisés. Non, les deux traînaient ensemble parce qu'ils aimaient bien l'obscur et le macabre, et aussi la Deuxième Guerre mondiale et la marde qui entourait Hitler. Ils aimaient bien la lecture sur le satanisme, les meurtres et les tueurs qui les accompagnent. Le duo pouvait passer des heures à discuter sur des sujets tels que la mort, ou bien les moyens de disséquer un corps, ou mon préféré, on en parle dans tous les dimanches en titillant une petite tasse de thé entre amis, comment torturer quelqu'un et le garder le plus longtemps possible en vie. Les deux aimaient bien écouter de la musique violente telle que Cannibal Corpse. Je suis vraiment pas du genre à blâmer la musique, les jeux vidéo ou la violence à la télévision sur les gestes que le monde commet. Parce que ça serait vrai avec la musique que j'écoute depuis que je suis jeune, je serais un tueur de masse ou un tueur en série. Si quelqu'un mélange fantasy avec réalité, c'est juste parce que c'est un Christ de fucké. Semble-t-il que le père de Mark, Jack, qui était pas très enchanté de cette fréquentation, et sachant que son fils n'était pas le crayon le plus exil de la boîte, Mark pouvait facilement être influençable. Jack Van Crevel tentait tant bien que mal d'interdire à Mark de fréquenter Kate Schreiber. Mais comme tous les adolescents, bien sûr, les deux faisaient qu'à leur tête. D'après un ami du duo, Schreiber serait vanté d'avoir tué un enfant, et aussi une fois alors qu'il était de retour dessiné, il aurait lancé un Asiatique hors du train qui était alors en mouvement. Que ses propos soient vrais ou pas, je comprends un peu l'inquiétude de Jack Van Crevel du fait que Schreiber se tient avec son gars. N'importe quel parent un peu responsable voudrait pas que ses enfants se tiennent avec un dérangé de même. L'eau coule sous les ponts, la vie suit son cours, et c'est le 12 juin 1998 que David O'Hearn, un homme de 63 ans, est retrouvé sans vie dans son logement. Et la scène est particulièrement horrible. Il a subi des sévices assez perturbants. La mort de O'Hearn est liée à plusieurs coups à la tête faits à l'aide d'un décanteur à alcool. Plusieurs blessures par arme blanche sont aussi apparentes. Il avait la tête et les mains coupées. Une partie de ses boyaux était extirpée et posée à côté de son corps. Il était à moitié dévêtu de son pantalon et avait le pénis horriblement mutilé. Il avait aussi le manche d'un marteau inséré dans le rectum. Une de ses mains coupées a été retrouvée sur un des divans. Elle avait servi à faire des écriteaux avec du sang sur les murs. On pouvait y lire le mot « Satan » accompagné du fameux pentagramme. Ouais, méchante scène de film d'horreur, pareil. Ah oui, la tête, j'allais oublier. C'est ça, la tête a été retrouvée dans le lavabo de la salle à manger. Les yeux avaient été extirpés de leur orbite. J'imagine les policiers devaient pas être prêts à ça et ça a dû les traumatiser pareil. Là. C'est vraiment... ça devait être gore. David O'Hearn était propriétaire d'un commerce et c'est quand que ses proches ont vu qu'il avait pas ouvert les portes cette journée-là qu'ils ont décidé de communiquer avec la police. Personne ne pouvait vraiment comprendre pourquoi quelqu'un pouvait vouloir du mal à une personne comme O'Hearn. Décrit comme quelqu'un sans histoire, respectueux et compassionné, la police a vite exclu la thèse du vol qui a mal tourné. Ils ont alors vu la possibilité que M. O'Hearn avait peut-être été tué car il était gay. Un fou psychopathe homophobe satanique. Va sans dire qu'avec un meurtre aussi sauvage, la panique et l'inquiétude s'est vite levée sur la ville de Wollongong. N'ayant aucune piste et ne sachant pas trop par où débuter, les policiers commencèrent leur enquête. Seulement 2 semaines s'écoula et une autre personne fut retrouvée assassinée sauvagement. Cette fois, c'était le corps de Frank Arkell, qui est âgé, je pense, de 62 ans. Pas aussi dégueulasse que la mort de David O'Hearn, mais quand même assez perturbant. La scène de crime démontre tout de même que le ou les tueurs sont des personnes purement sadiques. Frank, c'est ça, il est retrouvé avec le crâne fracassé par une lampe, la base d'une lampe de chevet. Il y avait le câble électrique de la lampe bien serré autour du cou et il y avait des aiguilles plantées dans les yeux et sur les joues. Dû à la nature du meurtre, les enquêteurs l'ont vite déduit que la mort de O'Hearn et celle de Arkell étaient sûrement liées. Frank Arkell a été décrit comme étant un des visages de Wollongong. Travaillant fort pour la communauté en étant maire de la ville pendant près de 20 ans, Il a été surnommé par la suite Monsieur Merveilleux Wollongong. Mais Frank Harkell, il cachait très bien son jeu parce qu'il avait une double vie, c'était pas la personne qu'il prétendait être. Non, c'était un esti de vidange de pédophile. Il est en attente de procédure avant qu'il soit tué pour beaucoup de charges criminelles. Les médias, ils ont mélangé les deux histoires. Ils ont insinué que c'était peut-être un tueur qui s'en prenait un cercle de pédophiles. Donc, le défunt Monsieur Warren, ça le salit sa réputation. C'était pas un pédophile. Cette fois, sur la scène du crime, les enquêteurs ont pu trouver un pantalon sport de marque Nike ainsi qu'une paire de bottes de marque Colorado. Les objets trouvés étaient couverts de sang, donc ils avaient de fortes chances d'appartenir au tueur. C'est sans perdre de temps que les policiers ont alors fait un communiqué de presse en parlant du dossier et en présentant les articles trouvés chez Harkill, avec espoir que peut-être quelqu'un les reconnaîtrait. Et ce fut une excellente idée car ils ont eu de très bons résultats. Car très peu de temps après la diffusion télévisuelle, une femme appela et déclara que son ex-conjoint portait le même modèle de bottes. Et son nom est Mark Valera. Vous vous demandez c'est quoi le lien entre la famille Creville, les deux morts et Mark Valera? Ben Mark Valera, c'est Mark Van Creville, c'est juste qu'il a fait changer son nom quand il est devenu un adulte parce qu'il déteste son père, semble-t-il. Et la dernière chose qu'il voulait, c'est avoir le même nom que lui. Donc maintenant, les enquêteurs ont un très bon suspect et l'enquête continue son cours. Mais très peu de temps après, Mark, sachant très bien que c'est le suspect numéro un pour les deux meurtres, décida de se livrer par lui-même à la centrale de police. Il fut très coopératif et donna sa confession. Mark raconta les événements sans vraiment avoir d'émotion ou démontrer de remords pour ce qu'il avait fait subir à ces deux hommes. Pendant son interrogatoire, il a dit qu'il n'avait pas vraiment de raison pourquoi il avait commis des actes aussi ignobles. David Warren, il a simplement dit qu'il s'est levé le matin et il avait envie de tuer quelqu'un cette journée-là. Pas plus compliqué que ça. Il a dit aussi que s'il avait tué Warren, c'était simplement dû au hasard. Ça n'avait rien à voir au fait que Warren était homosexuel. Mark était même pas au courant que Warren était gay au moment du meurtre. Bon, c'est un petit détail, mais ça va revenir tantôt à son procès. Il a aussi ajouté qu'il voulait garder le crâne de M. Warren, mais qu'il a changé d'idée finalement parce que c'était trop salissant. C'était pas un tueur en série, mais il était en force de le devenir. Pour l'enquête, les enquêteurs ont perquisitionné beaucoup d'effets personnels appartenant à Mark, dont un de ses objets préférés, c'est un livre, L'encyclopédie des tueurs en série de A à Z. Dans le livre, dans les premières pages, il avait écrit des petites notes personnelles assez intéressante, mais qui devait être assez inquiétante pour les gens qui étaient concernés. Parce que dans le livre, il y avait écrit « Qui sera la troisième personne? » Suivi d'une longue liste de noms de personnes. Harkell et O'Hearn en faisaient partie. On pouvait aussi lire le nom du père de Mark et le nom de sa mère, ainsi que plusieurs autres. Peu de temps après l'arrestation de Mark, Belinda commença à fréquenter son meilleur ami Kate Schreiber. Jusqu'à ce jour, Belinda a toujours nié le fait que c'était une relation amoureuse, mais les deux se sont certainement adonnés à des parties de jambes en l'air à plus d'une occasion. Des témoins l'ont confirmé. Je pense qu'à un moment donné, il était dans un appartement, puis ils ont entendu baiser, puis une couple de fois de même. En tout cas, Kate Schreiber, lui, il nommait Belinda sa petite amie. Je pense juste que Belinda s'est encore lissée, elle se servait de lui, ou je sais pas trop. Pendant son procès, Mark Valera déclara qu'il a été victime d'abus physiques et de mauvais traitements aux mains de son père pendant des années. Son avocat jouera beaucoup avec cette carte-là. Leur défense est à peu près que si Mark a commis ces actes horribles, c'est dû aux mauvais traitements que son père lui a imposés pendant toutes ces années. Son père Jack ira même témoigner et affirmer qu'il a été violent avec son fils. Quelques jours plus tard, Mark prétendra que pendant toutes ces années de mauvais traitements, son père l'aurait aussi violé et agressé sexuellement à d'innombrables reprises. Son père Jack retournera au banc des témoins et, sous serment, il niera toute accusation de viol ou d'agression sexuelle venant de Mark. Et maintenant, rendu à son procès, les motifs pour avoir tué Harkell et O'Hearn ne sont plus les mêmes que sa déposition qu'il avait fait le jour de son arrestation. C'est ça, maintenant, ce serait dû au fait que Warren lui aurait fait des avances sexuelles. Et semble-t-il qu'avec Harkill, Mark a prétendu que les deux y avaient une relation amoureuse depuis un an, que ça aurait duré un an avant que Mark le tue. C'est ça, il a essayé de passer ça sur la loi Gay Self-Defense. Je me souviens pas c'est quoi le nom de la loi là, aux États-Unis. C'est ça, tu t'entends menacer par un gay qui te faisait des avances puis tu voulais le tuer. Je serais même pas surpris qu'il y ait des États encore dans le sud qui pratiquent encore cette loi-là. En tout cas, je savais pas qu'en Australie, ça se pratiquait aussi. Je vous rappelle que c'est en 98, ça fait pas si longtemps. C'est sûr que ça a pas passé, Noé. C'est à peine perdu, ces crimes étaient ben trop violents. C'est pas juste simple légitime défense parce que tu te sens menacé par ton orientation sexuelle parce qu'il y a un gay qui te fait des avances. Peu importe ce qu'il a pu déblatérer à son procès, ça a pas trop aidé parce qu'il a finalement été condamné à 2 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et ça a servi consécutivement. À l'époque, ça faisait de lui le plus jeune prévenu à être sentencé dans une institution à sécurité maximale en Australie. Au fil des ans, il tentera d'aller en appel, mais ça sera toujours refusé. C'est ça, il n'a jamais accepté ses responsabilités, il a tout le temps mis ça sur la faute des autres. Ça, c'est la grosse mode chez les tueurs narcissiques. Il n'y a pas grand tueur qui prenne la blâme et qui assume leur acte. C'est ça, la majorité disent que c'est la faute du système, la faute de leurs parents, la faute des mauvais traitements qu'ils ont subis. Sérieux, des traqués de même qui ont accepté leurs responsabilités, puis... pas jeter de blâme sur les autres. Il n'y en a pas gros qui me viennent en tête, Drella. Je sais qu'il y a Jeffrey Dahmer. Lui, il a eu une enfance très normale, des parents normaux, une enfance heureuse. Il a fait ses choix-là par lui-même, comme qu'il a dit. Revenons à nos moutons. L'histoire s'arrête pas avec l'incarcération de Mark Valera, non. Car 2 semaines après qu'il ait eu sa sentence, devinez ce qui est arrivé. Jack Von Crevel a été retrouvé sans vie dans son domicile, assassiné sauvagement. Sa mort est due à de nombreuses blessures à la tête, et de multiples blessures à l'arme blanche sont aussi présentes sur son corps. C'est la terreur à Wollongong. Je peux dire le gong. Rendu là dans l'histoire, je pense que je suis rendu à Saint-Tim. Donc c'est la terreur au gong. Une enquête de fou qui débutait avec des effectifs mis à disposition des enquêteurs comme des hélicoptères, la technologie à la fine pointe, ainsi que le FBI qui est venu aider. Tous les moyens étaient là pour arrêter les coupables ou le coupable au plus vite pour que les citoyens peuvent se reposer enfin et dormir la nuit. Non, sérieusement, l'enquête n'a pas été très compliquée. Ils n'ont pas été chercher bien loin. 24 heures après, il y avait déjà un coupable qui avait tout avoué. C'était Kate Schreiber, bien sûr. Et comme j'ai dit très peu de temps après son arrestation, il s'est mis à la table et a avoué que c'était lui qui avait tué Jack Von Crevel. Et pendant son interrogatoire, il démontrait très peu d'émotion et pratiquement aucun remords pour ce qu'il avait fait. Il déclara aux enquêteurs que Jack Von Crevel devait mourir pour venger Mark et protéger Belinda, sa fille de 2 ans. Ah, je pense que j'ai oublié de le mentionner, c'est souvent elle a une fille de 2 ans. Et elle avait dit à Schreiber que Jack Von Crevel avait abusé sexuellement de elle et de sa petite fille. Donc, il devait mourir absolument. Pendant son interrogatoire, il expliquera aussi en détail les événements qui se sont produits le soir du meurtre. Et ça va un peu comme suit. C'est le 18 août, aux petites heures du matin, que Schreiber s'est rendu chez le paternel Jack Von Crevel. Et ce, dans un seul but, lui faire la peau. Ouais, faire la peau à ce vieux sale de Jack Von Crevel. Arrivé sur les lieux, il n'avait pas amené d'armes avec lui, mais il a mis la main sur une hache qui se situait dans le garage. Ensuite, après s'avoir introduit par une fenêtre qui était entr'ouverte, il se plaçait en position pour frapper pendant que Jack Von Crevel dormait paisiblement. Et le premier coup est parti. En le frappant un coup de hache, c'est là qu'il s'est écrié « Toi, mon tabarnak de charogne de pédophile, tu n'agresseras plus jamais un enfant! » Malgré la violence des coups, Jack s'accrochait à la vie. Il ne voulait pas donner son dernier souffle. Schreiber alluma alors l'éclairage, histoire de voir l'étendue des dégâts. Ensuite, il s'élança en dehors de la pièce pour trouver d'autres armes. Peu de temps après, il revint à la charge avec un tisonnier et un couteau et acheva Jack. Pendant que tout ça se déroulait, dans la pièce à côté se trouvaient Belinda et sa petite fille de 2 ans. Elle a déclaré aux policiers qu'elle était restée cachée par raison de sécurité pour elle et sa fille. Elle ajouta aussi qu'elle a attendu 30 minutes après que les bruits aient cessé avant de sortir de la chambre avec sa fille et de quitter au volant de sa voiture pour se rendre à la centrale de police. Les policiers lui ont alors demandé pourquoi qu'elle a quitté la scène de crime avant de savoir assurer si Jack n'était pas encore en vie. Belinda a simplement répondu qu'avec tout le sang qu'il y avait sur la scène, c'était sûr que son père Jack n'était plus en vie. Quand Schreiber est arrêté et qu'il a passé à table, les enquêteurs ont décidé de re-questionner Belinda au sujet de la mort de son père. Belinda a déclaré qu'elle n'avait rien à voir avec la mort de son père et qu'elle n'était pas au courant que Schreiber avait comme projet de le tuer. Les enquêteurs garderont un œil sur Belinda Carr et ont de sérieux doutes qu'elle est impliquée dans la mort de son père. Quelques semaines après, ils ont pu remarquer des transferts monétaires assez douteux entre Belinda et Schreiber, donc ils ont décidé de la re-questionner. Et Belinda déclara simplement que ça n'avait rien à voir avec la mort de son père, qu'elle avait le droit d'envoyer de l'argent à Schreiber si ça lui plaisait, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi ça avait l'air si incriminant. Pour les procédures judiciaires de Schreiber, il a plaidé coupable, donc il n'y a pas eu de procès. Il a été sentencé seulement à 16 ans d'emprisonnement, avec un minimum de 12 à servir. Là, on parle d'un meurtre sauvage prémédité, des vraies sentences bonbons, c'est pire qu'au Canada. Il sera libéré, je pense, après 12 ans, mais dans la même année qu'il a été libéré, il retournera en prison parce qu'il n'est pas capable de s'adapter et de s'intégrer dans une société normale. Et il avait tendance à désobéir à son agent de probation. En 2021, ça veut dire qu'il doit être sorti de prison s'il n'a pas commis d'autres actes criminels. Et oui, ensuite, ça sera le tour de Belinda. Ouais, elle s'est fait accuser elle aussi d'avoir orchestré la mort de son père. Son procès ressemblait un peu à celui de son frère Mark. Elle accusait son père de mauvais traitements, de sévices sexuels. Donc si elle a orchestré son meurtre, c'est simplement pour se venger et se protéger. Elle s'est vue donner une peine de 6 ans d'emprisonnement pour être le cerveau en arrière de la mort de son père. Et bien sûr, elle perdit la garde de sa petite fille. Elle purgera sa peine et à sa sortie de prison, peu de temps après, elle donnera naissance à un garçon. J'aimerais vous dire que Belinda a choisi le droit chemin et on n'a plus entendu parler d'elle, mais non, c'est pas le cas. Car en 2013, en juillet, alors que Belinda et son copain qui se nomme Marshall Gould visionnaient une partie de football, et tout ça en abusant de l'alcool et de médications prescrites. Au cours de la soirée, Belinda attaqua alors son conjoint Marshall avec un couteau. Et lui asséna 5 coups, dont 2 dans la région du cou. Marshall fut transporté d'urgence au centre hospitalier pour soigner ses blessures. Ensuite, l'État fera un procès à Belinda pour avoir attaqué son conjoint à coups de couteau. Pendant son procès, Marshall a même menti sous serment pour protéger Belinda. Il déclara qu'il a été attaqué par 3 personnes qui voulaient le voler. Ensuite, il déclara qu'il était en amour avec elle, que c'était sa famille et qu'on soutient sa famille, peu importe. Belinda, pendant ce procès, jouera encore la carte de l'enfance misérable, où elle a été battue et agressée sexuellement par son père. Le juge la sentencera à 3 ans d'emprisonnement, et elle perdra la garde de son garçon, bien sûr. En novembre 2017, alors que Belinda est âgée de 37 ans, elle fut jugée coupable d'avoir volé le sac à main d'une vieille dame. Avant de sentencer Belinda, le juge déclara que ses actions étaient pathétiques. Pour ce vol, elle se verrait imposer une peine de 15 mois d'emprisonnement. Ensuite, ça s'arrête pas là, car en juin 2020, après une soirée bien arrosée avec une de ses bonnes amies du nom de Catherine Stanley Smith, une dispute éclate entre les deux. Et je sais pas pour quelle raison, sûrement pour pas grand-chose, une chicane de Soulon. Semble-t-il que l'altercation débuta assez inoffensivement, j'imagine du tirage de cheveux, du gueulage. Mais ça tourna très vite au vinaigre quand Belinda, à l'aide de ses 2 mains, tenta d'étrangler Catherine. Ensuite, elle lui aurait asséné 2 coups de poing au visage, avant qu'un voisin entende la commotion et vienne les séparer. Mais Belinda en voulait toujours plus et a commencé à lancer des bibelots et des objets en direction de Catherine. Semble-t-il que certains des objets l'auraient même heurté au visage. Et un dernier, celui-là est vraiment récent, mais je suis plus trop sûr, je suis tombé dessus le pas long, j'ai oublié de le noter. Ça serait un autre vol de sac à main d'une personne âgée qui est arrivé dans les derniers mois. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a rien à faire avec ça. C'est la graine de bandit. Mais au moins, on est assuré que Mark, lui, ne sortira jamais de prison. Mais la question qui reste dans ce dossier-là, puis on ne saura sûrement jamais la vérité, mais j'ai un gros doute, c'est est-ce que Jack Van Crevel était vraiment violent avec ses enfants, puis est-ce qu'il les a abusés sexuellement? D'après mon petit ton sarcastique tout au long de l'épisode, je pense que vous savez déjà sur quel côté je me penche. D'anciens voisins des Crevel, les Stanford, qui n'étaient pas de la famille, mais qui connaissaient très bien les Crevel, Belinda puis Mark les appelaient même leur oncle et leur tante. Et d'après oncle Peter et tante Anne, ils ont déclaré qu'ils n'ont jamais vu aucun signe que ces enfants-là avaient été battus. Et les Stanford gardaient Belinda et Mark à tous les après-midi quand ils revenaient de l'école, les jours de la semaine, parce que Jack travaillait plus tard. Et c'est ça, ils n'ont jamais vu aucun signe, aucune blessure, aucun ecchymose, et ça pendant toutes ces années. Oncle Peter déclara, je cite, « Jack travaillait dur pour subvenir aux besoins de ses enfants, mais ce n'était jamais assez. » La façon dont ces deux jeunes-là décrivent leur mauvais traitement, il y aurait eu des blessures, des ecchymoses, des traces, mais on n'a jamais rien remarqué. Et ces enfants-là n'ont jamais démontré aucun signe qu'ils avaient peur de leur père. Pour ce qui est de Tantan, elle connaissait Jack depuis qu'ils étaient adolescents. Et elle déclarait que s'il y avait quelque chose, c'est que Jack était troublé avec lui-même. Souvent, en prenant le café avec, il lui disait qu'il s'inquiétait vraiment pour ses enfants et avait peur de faire le mauvais choix pour eux. Il s'est même inscrit à des cours pour devenir un meilleur parent. Jack a tout tenté pour ses enfants, mais rendu à l'adolescence, ils en sont venus à le détester. Et Mark a commencé à fréquenter des gens très peu recommandables. Je pense qu'elle parle de Schreiber. Il y a aussi la sœur de Jack Van Crevel qui a fait une déclaration après les événements. Je cite, « La vérité va sortir un jour. Il n'a jamais battu ses enfants. C'était le meilleur père au monde. Il défendait ses enfants contre n'importe quoi. » Et quand Jack a témoigné au procès de Mark, il a menti sous serment en affirmant qu'il maltraitait son fils depuis plusieurs années. Un geste désespéré pour tenter de diminuer la sentence de son fils. Il était presque prêt à tout pour l'aider, mais certainement pas de passer pour un pédophile. Mon verdict dans tout ça, c'est que je pense que Mark, c'est un vrai sociopathe, puis qu'il a lavé le cerveau de sa petite sœur, puis qu'elle a croué en lui, a vie pour lui. Elle en parle dans une entrevue qu'elle a faite avec 60 Minutes Australia. Tu vois dans l'entrevue qu'elle aime son frère, elle le défend, elle dit que c'est pas une mauvaise personne, qu'il est gentil, puis que sans lui, elle serait morte. Pas de mauvaise personne. Il a quand même tué deux personnes très violemment, sauvagement. C'est un vrai Christ de monstre, mais elle et tout, quand même pas si pire dans son genre. Bon, pour cet épisode-là, j'ai acheté son livre... Le meilleur achat que j'ai pu faire en 2021, sérieusement, je vous le conseille fortement. Non, c'est pas vrai. J'ai acheté la version audio, 6$. Ça dure 25 minutes. Donc, on peut dire 20 minutes de mensonge et 5 minutes de vérité. La qualité audio est misérable pour le prix. 25 minutes, 5-6$. Au moins, faudrait que la qualité audio soit là parce que... En plus, le contenu, c'est pas terrible. Non, j'ai été vraiment déçu. Mais l'entrevue qu'elle a fait avec 60 Minutes Australia, c'est quand même bon. Parce que Belinda, elle savait pas, mais son nom, il était dans la liste des personnes à tuer, dans le petit livre préféré à son frère. Le livre des tueurs en série, là, l'encyclopédie A à Z. Ouais, puis c'est direct à la télévision qu'elle l'a appris. C'est avoué, elle a avec ses belles paroles sur son frère. « Mon frère, c'est un ange, il ferait pas de mal à une mouche. » J'exagère peut-être un peu, mais en tout cas. Là, la journaliste, elle dit « Ouais, je crois que t'étais pas au courant, on veut te montrer quelque chose. » Puis elle lui tend le livre, l'encyclopédie des tueurs en série. Et Belinda, elle voit son nom dans la liste des personnes à tuer que son frère a fait. Tu vois qu'elle a les yeux pleins d'eau. Mais comme une pro, elle reprend ses émotions assez vite. Puis elle fait comme si rien n'était, qu'elle avait rien vu. Et continue à vanter les mérites de son frère, comment c'est une bonne personne. C'était crissement pas professionnel de la part de 60 Minutes Australia. Ils ont eu beaucoup de plaintes à ce sujet, mais c'est magique à regarder. De toute façon, c'est un astide vidange. Elle a fait aussi un shooting photo. Ça me donnait presque le goût de vomir. Elle se montre la bédaine. Je sais pas trop c'est quoi son but. Mais ah ouais, pendant son entrevue de 60 Minutes Australia, elle a l'air d'une bonne femme débarquée du fin fond de la Sibérie qui boit un 41 de vodka le matin. Elle rentre dans une pièce, puis l'atmosphère vient plus froide de la place d'où ce qu'elle vient. Non, les Van Crevel, ils ont l'air de venir plus de la Norvège. En tout cas, si vous voulez son livre version papier, sur Amazon, il est à 900$ canadiens. Ça fait une belle ajout à votre bibliothèque. Ouais, 998$ canadiens pour l'exemplaire le moins cher. Il y en avait des plus chers que ça. L'auteur du livre de Belinda s'appelle Sarah Griffith. Et j'ai checké, elle a juste fait deux autres livres qui sont un petit peu plus longs, mais qui parlent de baseball. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter l'épisode. C'est un cas que j'ai bien aimé étudier. Donc, en finissant, Redbubble pour la marchandise mauvaise augure, redbubble.com. Si vous voulez parler des épisodes que je publie, donnez vos avis ou me suggérer un dossier, Gênez-vous pas pour me contacter. Il y a aussi le groupe Facebook, juste à chercher pour Mauvaise Augure. Le podcast, gros, aussi. Je suis content. Ce serait le fun, ça continue. Donc, parlez-en à un de vos proches, à un de vos amis. Et passez-leur le message en même temps. Qu'ils barrent leurs portes et qu'ils ferment leurs volets.
Le meurtre prémédité.
Cette nombreuse recherche qui avait été effectuée.
Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'instant. Pour l'instant.